Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être venus. On va passer une heure, un peu moins, avec Steven Erikson. Alors je ne sais pas s'il a la définition, il conviendra, mais Steven Erikson est un peu un inconnu célèbre. C'est l'auteur d'une série essentiellement qui s'appelle Le Livre des Martyrs, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires à travers le monde, qui a une histoire qui va nous raconter, j'espère, un peu chaotique en France, où il y a une tentative, puis ça n'a pas marché, puis c'est revenu. Et aujourd'hui, les éditions Léa arrivent quasiment au bout de ce cycle. Donc j'espère que Steven va nous raconter un peu qui il est, d'où il vient, et quelle a été l'aventure de ce livre des martyrs. Et après, on discutera aussi, si on a le temps, mais je pense qu'on l'aura, de ses autres ouvrages, puisqu'il est l'auteur également d'ouvrages de science-fiction et d'autres trilogies de fantasy. Évidemment, c'est d'autant plus facile qu'on n'est pas très nombreux. Si vous avez envie de poser des questions, on prévoira un petit espace à la fin. Mais si vous avez envie d'interrompre en cours de discours, n'hésitez pas. Steven Erikson, donc, si on reprend un peu votre biographie, vous êtes né au Canada, à Winnipeg, et vous êtes parti ensuite assez rapidement, je crois, en Angleterre. Est-ce que ces parcours géographiques ont eu la moindre influence sur vous, et quels souvenirs vous avez d'être passé d'un continent à l'autre?
Right. Actually, I was born in Toronto, but I grew up in Winnipeg.
Ah.
And I spent most of my, I guess until my mid-20s, early 20s in Winnipeg. And from there, I ended up going to universities on the West Coast and in the United States. And it was only quite a few years later that my wife and I moved to, and our son, we moved to the UK. And that's where I actually got the book deal finally confirmed. So that's kind of the brief description of my background.
Alors en réalité, je suis née à Toronto. C'est à Winnipeg que j'ai grandi. Je suis restée là jusqu'au début de la vingtaine. Et puis après, je suis partie. Je suis allée faire des études universitaires sur la côte ouest des États-Unis. Ce n'est qu'après qu'avec ma femme et mon fils d'ailleurs, nous sommes partis au Royaume-Uni. D'ailleurs, c'est là qu'on a confirmé qu'on publiait mes livres. C'est là que tout a été signé. Je crois que c'est à peu près tout.
Yeah. And in terms of influence through travel, yes, but primarily working as an archaeologist. So that brought me to many places, and I think is one of the elements that really informed the Malazan Book of the Fallen for both myself and fellow archaeologist Ian Esteban.
Alors, pour le voyage, est-ce que ça a eu une influence sur mon écriture? Oui, mais c'est surtout mon travail d'archéologue qui m'a fait aller voir de nombreux endroits. Ça a vraiment eu un véritable effet formateur sur mon écriture, sur l'écriture de Malazan Book of the Fallen, le livre des martyrs, et de même que pour mon collègue également, Cam.
Quelle influence directe avec l'archéologie? C'est-à-dire, c'est en essayant de creuser la terre pour retrouver des bouts d'empires disparus que vous avez eu, vous, envie d'en créer un, ou c'est un peu simpliste?
Oh, I think so. I remember when I was much younger, my family moved back to Sweden for a short time, and I have very, very strong memories in the city of Uppsala. Just outside the city, there's these three huge burial mounds. And I guess I was about 5 years old, and I do remember exploring those, and my father telling me lies about them. Basically, the trolls lived inside them and all the rest. That fired up my imagination. But the whole thing with archaeology is you look at a landscape, and this was especially true in the UK, and you can see the modifications that have shaped that landscape. And most of those modifications, at least in the UK and in Europe, are through human agency. Whereas in Canada, a lot of the modifications are through glaciation, natural processes. But then you want to, when you look at that as an archaeologist, you want to then try to imagine the cultures that have adapted to those places. And that's where sort of those ideas of how landscape shapes cultures and peoples is definitely something we explored in depth in the Malaisian books.
Oui, je pense que c'est le cas, en effet. Quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, j'avais environ 5 ans, ma famille retournait assez rapidement à faire un voyage, vivre en Suède, mais pour un bref laps de temps. J'étais près de la ville d'Uppsala. J'étais près de la ville d'Uppsala. Et là, il y avait en fait des collines funéraires. Hein. Excusez-moi, je suis pas archéologue. Et moi, j'avais juste 5 ans, comme je disais, et puis je me suis amusée, j'ai tout exploré et tout. Et puis mon père s'est beaucoup amusé, il me racontait des tas de mensonges là-dessus, il me disait que c'était là qu'habitaient des trolls. Et tout ça, en fait, ça a éveillé mon imagination. En tant qu'archéologue, quand on voit un paysage, on pense aux modifications qu'a subi ce paysage. En Europe, beaucoup des modifications sont dues à l'action humaine. Alors qu'au Canada, par contre, c'est surtout la nature qui l'a modifié par les périodes de grand froid, les glaciers, etc. Et en fait, un archéologue s'intéresse à la culture qui a vécu dans tous ces paysages si divers et comment et qui s'est adapté à ces paysages. L'idée que la terre peut avoir une influence sur la culture, sur les personnes qui y habitent, c'est quelque chose qu'on a voulu explorer en profondeur dans nos livres.
Il n'y a vraiment pas de troll en Suède.
As far as I know, there are none, no. But I do remember there were like these wooden doors that were set in these mounds, these burial mounds, and they were wide and squat doors.
And all ones on them.
And yeah, I could have sworn, you know, at least my father convinced me that there were trolls in there.
Que je sache, non, il n'y a pas de trolls en Suède. Par contre, alors voilà, ces collines funéraires ont des portes. Elles sont très larges, mais basses. Et puis moi, j'aurais pu jurer que des trolls y habitaient. Et puis mon père m'a vraiment, vraiment convaincu que c'était le cas.
Où avez-vous fouillé et est-ce qu'il y a des endroits particulièrement qui après vous ont inspiré? Est-ce que vous étiez spécialiste d'une époque, d'un pays?
No, well, I specialized in what's called lithics, stone tool technology, and rock art, and survey. So the survey was the thing that I loved the most, because it you wander out into the landscape, and you have to try to peel back time from what you are seeing right now. And that sort of evokes the imagination very, very quickly. And that kind of thing is one of the things that we really were considering and thinking about with the creation of the Malaisian world, especially. The idea that as a writer, you create the landscape in your imagination. And so you give it a specific details of geography and temperature and all the rest. But if you treat it simply as the surface on which your characters are going to be running across, then you kind of lost an opportunity. And the opportunity is to think in terms of deep time. What lies beneath the surface of that? And how has that shaped this present world that you're creating?
Bon, alors mes spécialités, c'est l'effet que c'est les outils en pierre, la technologie des outils en pierre, l'art rupestre, mais aussi l'analyse de paysages. En fait, quand on est archéologue, on va dans un paysage et on essaye d'éplucher les couches successives qui ont été accumulées avec le temps. Et tout ça, ça se fait dans notre imagination, et puis notre imagination, elle décolle, comme vous pouvez imaginer. Et je pense que ça nous a aidé à créer notre monde, parce que l'écrivain crée un paysage dans son imagination. Il pense à tous les détails, la géographie, la température, etc. Mais si cet écrivain ne reste que sur la surface, eh bien en fait, il a perdu une belle occasion. Il faut aller profondément dans ce paysage pour voir ce qui est en dessous de la surface et comment ce qui est en dessous de la surface forme notre monde en création.
Vous pratiquez toujours ou plus du tout?
No, I volunteer when I can. The last projects have been in southern Italy. Very, very interesting cave site called Pornello, which was a series of caves right opposite
a Neolithic hilltop village that had been converted or occupied by the Greeks as a colony. But the caves themselves had been converted into churches, and so they had artwork, frescoes on the inside of the cave walls, which we were working on restoring. And then just outside, there's an old monastery, and we were excavating around that area as well.
Non, je continue quand je peux de travailler bénévolement. La dernière fouille que j'ai faite était en Italie du Sud, un site qui s'appelle Fornelloquia, justement des grottes. C'est en face d'une colline néolithique. Il y avait un village qui occupé d'ailleurs par les Grecs à l'époque, qui y avait été construit. Et sur ce site, en fait, les grottes avaient été transformées en église. Donc il y avait des fresques, on essayait de les restaurer. Et il y avait également un monastère juste à côté, et nous menions notre fouille tout autour.
Cette imagination qu'excitait le travail archéologique, est-ce que vos lectures la faisaient travailler aussi? Et est-ce que, adolescent, puis jeune archéologue, vous étiez déjà un lecteur de fantasy ou c'est venu après? Ou ça n'est peut-être jamais venu?
No, I was definitely a reader. I think the first books I was reading, once I sort of got past things like the Hardy Boys, were books by Edgar Rice Burroughs and Robert E. Howard. So fantasy very, very early on. And in terms of the archaeology, yeah, that is certainly something that I guess with respect to how I approach the writing is very similar to how an archaeologist works. In the sense that one is thinking in terms of language, of layering language to build the depth. So I don't think that was an answer to your question, but I think I'll stop there and then you can
don't
proceed.
Mind, I have other ones.
You have others? It's more like I forgot your question.
Je pense que j'ai toujours été un lecteur de fantasy à partir du moment où j'ai décidé que je ne lisais plus Club des Cinq. Bon, il a parlé des Hardy Boys, mais ça n'existe pas en France, je pense. J'ai commencé à lire Burroughs et
Robert Howard.
And Robert Howard. Et pour parler de l'archéologie, je pense que le travail, la manière dont j'écris est proche du travail d'archéologie, faire des couches de langage pour construire de la profondeur, justement. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à votre question, je l'avais oubliée.
Alors je vais la redire, vous avez répondu un peu, mais pas tout à fait. Quels ont été vos premiers coups de cœur de fantasy et pourquoi cette attirance pour ce genre?
The first one I fell in love with. Actually, it was probably, I guess you could call it fantasy. It was by the author Jack London.
Yeah. Mm-hmm.
And the book was called Before Adam.
Mm-hmm.
And I remember being captivated by the cover. And I think when I bought it, it was 60 cents for the book. But that one, of course, is tied into aspects of human evolution, hominid evolution. So it bound up my interests, but also the point of view being employed was quite extraordinary. And so that really captivated me.
Alors, je crois que le premier, oui, je pense que c'est quand même du fantasy, du fantastique. C'est un livre de Jack London, Before Adam, donc
avant Adam.
Avant Adam, il a été traduit.
Ouais.
D'accord.
Une nouvelle plutôt.
Et c'est short story. C'était un gros livre à l'époque pour moi. Et j'étais passionnée par la couverture. Puis je me rappelle, j'ai payé 60 centimes. Et c'est un livre qui parlait en partie de l'évolution de l'humanité, des humanoïdes. Et j'ai été passionnée par ce livre. Il m'a pris aux tripes. Et puis j'ai trouvé que le point de vue adopté dans ce livre était vraiment extraordinaire.
But in terms of as more sort of an adult, I would say it was Stephen R. Donaldson's Lord Falsbane.
Mm-hmm.
I found that to be an extraordinary work in the sense that it was engaging in a dialogue with the Tolkien trilogy, but also the Tolkien tradition. And there were meta elements to the book as well that I found really quite fascinating. And it felt as if prior till then, to that book, in terms of epic fantasy covered a range in terms of readership from children to young adult to adult. In other words, any of those three groups, age groups, could access most epic fantasy. But with Donaldson, he dragged epic fantasy into adulthood.
Alors voilà, en tant qu'adulte, je pense que le livre de fantasy qui m'a le plus marqué est un roman de une série de Stephen R. Donaldson, de Chronicles of Thomas Covenant, et le livre dont il parlait précisément, c'était Lord Foulsbane. Et en fait, c'est une sorte de dialogue avec la tradition Tolkien, la trilogie Tolkien également. Il y avait des éléments méta qui étaient passionnants, et vraiment c'est un livre qui pour moi, qui m'a vraiment marqué, qui me semble essentiel, parce qu'avant les livres de Donaldson, la fantasy épique était soit pour les enfants, soit pour les jeunes adultes, soit pour les adultes. Il y avait ces trois groupes d'âge qui avaient accès, mais Donaldson a vraiment entraîné le fantasy dans l'âge adulte.
Qui dit archéologie dit rapport oui, rapport à la mythologie. Est-ce que les classiques, alors Homer évidemment, mais également Virgile, enfin les grands écrivains antiques, créateurs de mythes, vous ont également nourri?
Oh, absolutely. My degree was in anthropology, specializing in archaeology, but I had double minors in ancient history and classics. The Iliad was I think, had a very profound impact on the creation of the Milesian world, especially in how we imagine the role of gods and a pantheon within a human context. So all of that was, I think, crucial in terms of thinking about the world we were creating. But in addition to that, what I found fascinating about the Iliad is that it archaeologically it makes no sense. It's a blending of Iron Age and Bronze Age technologies. So you've got a storytelling tradition that is evoking a memory of the previous civilization in the same region, but having dropped away certain aspects of knowledge, either deliberately or by accident. I'll continue, but we'll let that go.
Oui, tout à fait. Donc, ma première licence était dans le domaine de l'anthropologie et aussi l'archéologie, mais j'avais des mineurs, des UV en quelque sorte, en histoire ancienne et lettres classiques. Et l'Iliade a vraiment joué un rôle essentiel dans la création de notre monde. Entre autres, le rôle des dieux, le panthéon, l'impact qu'ont ces dieux sur notre monde. Tout ça est crucial quand on pense à créer un monde. En outre, l'Iliade m'a passionnée parce que archéologiquement, c'est un livre qui n'a pas de sens. Parce que c'est cette sorte de mélange entre l'âge de fer et l'âge de bronze. Et dans l'Iliade, ils évoquent des choses qui ont référence à une civilisation passée, mais il y a énormément d'omissions. Est-ce que c'était des omissions exprès ou est-ce que ça a tout simplement été oublié? Eh bien, on ne sait pas, mais je vais continuer.
And the other aspect regarding the Iliad is its malleability. It is a flexible kind of story where you know that it is evoking certain historical memories of places and sites and possibly actual people. But it has been morphed and shifted over time and mythologized. And that process, I think, is something that both Cam and I were fascinated with. And so when we were gaming our Milesian world, most of what we gained until recently was the backstory to the books that we wrote. So we were trying to build that mythological foundation, that footing on which to draw our stories. And so once we sort of considered that, then we realized that accuracy and truth in terms of the events that occurred in that past actually are less relevant than other things about that past. and the sensibilities that the characters in the present in our stories actually have regarding that past, whether those sensibilities are accurate or not, makes it very interesting, because they're walking on the landscape of that deep history. And every now and then, because of fantasy, we can dig up through that history and bring the ancient past into the present.
De plus, l'Iliade est un livre très malléable, flexible, et c'est un livre qui évoque une véritable mémoire historique, les lieux, les sites, les gens, pas forcément dans l'ordre qu'il faut, et pas forcément avec une grande précision historique. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est des changements qui ont lieu avec le temps, et qu'à mémoire, c'était quelque chose qui nous passionnait. Et d'ailleurs, quand on faisait nos jeux de rôle autour de l'univers, de notre univers, on s'est rendu compte qu'on créait en fait une sorte de backstory pour les aventures que nous écrivions dans nos romans. Et on commençait à créer cette mythologie. On s'est rendu compte que, au fur et à mesure que nous créions, que la précision et la vérité étaient moins pertinentes que d'autres choses, c'est-à-dire ce que ressentent les personnages sur cette mythologie, sur ce passé, qui sont erronés.
In similar fashion,
I can skip that. Non. Et une autre chose qui est vraiment bien, c'est des fois on creuse un peu dans le passé et de tout d'un coup, ce passé fait irruption dans le présent, chose qui est vraiment très sympa.
Et qui est une des choses assez passionnantes et assez nouvelles, justement, du livre des martyrs, ce rapport passé-présent.
I'll elaborate on that. What I was going to say was, if I can remember what I was going to say, if you look around and you look at this world, the one we live in, all around us, I don't think we are very often conscious of the extent to which mythology of our cultures is actually surrounding us at all times. It tends to represent as sort of the foundational aspects of worldviews that you carry. So based on your history, based on your family, based on your schooling, your levels of education, and all the rest. But there's an active mythology around us right now. But what fantasy as a genre can do is it can stir up and make real that active mythology around the people. So we can have the presence of this deep element of the past resurrecting itself and engaging with the present. What we find there is you then, almost by accident, you create a dialogue between remembered history and recorded history and the present. And that dialogue is not always an agreeable one. Quite often, our modern mythologies are designed to reaffirm whatever status quo we have in the present and may not actually adhere to the truth of the past.
Excusez-moi, j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais non. En fait, voilà. Quand on regarde le monde autour de nous, on n'a pas conscience combien la mythologie passée de notre culture passée, les mythes du passé sont omniprésents. Mais cette mythologie est à la véritable base, à la source de nos rêves, de nos visions du monde. Alors tout dépend bien entendu de son histoire familiale, de son histoire personnelle, de son niveau d'éducation. Mais la mythologie, tous ces mythes sont partout. Et la fantasy peut justement permettre de rendre la mythologie plus réelle. Le passé, tout d'un coup, reprend vie et interagit avec le présent. Et ça crée une sorte de dialogue entre l'histoire dont on se rappelle, l'histoire scientifiquement enregistrée, en quelque sorte, et le présent. Et c'est pas forcément un dialogue agréable, parce que la mythologie, elle a été mise en place pour... la mythologie omniprésente a été mise en place pour maintenir le statu quo, et c'est pas forcément agréable de se rendre compte de ce qu'était réellement le passé.
Vous avez évoqué le début, donc vous avez parlé de jeux de rôle, de votre collaboration avec avec celui que vous appelez Can, donc Can Canrom Esselman. Comment est née cette envie de passer à l'écriture et les prémices de ce projet colossal?
Well, that's sort of two different questions, I guess. The writing, I think I started actually quite late, in my early 20s. I thought I was going to be a comic book artist, but we're going so far back in time that we are in a pre-technology stage of comic books, which means really, really time-consuming stuff. And I found I just trying to do it all by myself, illustrating and all the rest, was simply too onerous. So the illustration fell away and narrative took over. And that became a lot cheaper because you just have a typewriter and you type. But even then, I don't think I was thinking in terms of writing science fiction and fantasy. I was writing short stories, contemporary fiction, and that's what sort of got me into the writing program. I'd met Cam on a dig, and we had both been reading fantasy. Curiously, he was reading different fantasy novels than the ones I was reading, so we were able to compare and contrast. And then he introduced me to role-playing games, and we began sort of almost accidentally building a consistent world for all the characters that we were going to be playing through. But I think what actually drove us first to writing and co-writing was film scripts. And we started with a horror film, horror comedy, which we were told at the time is something you're not allowed to do. So that never got made. And then we did two magic realist scripts, and we were told that nobody does magic realist stuff. One of them had some period pieces in it, and we were told that this is before Merchant Ivory. We were told that nobody does period pieces anymore, costume dramas. So we kept writing scripts and being told that nobody does these things anymore. And the last one was Guardians of the Moon, which was the last part of Guardians of the Moon is the script. And so we were co-writing those things. That's how we kind of got started.
C'est deux questions en une. J'ai commencé à écrire assez tard. J'avais la vingtaine bien entamée. Au départ, je pensais que j'allais écrire des BD. Mais en fait, c'était un temps très loin dans le passé où on n'avait pas tous les outils techniques qu'on a actuellement à notre disposition. Et je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup trop de temps, que c'était chronophage. Donc, les illustrations sont un peu tombées de côté. Et c'est la narration qui a pris le dessus. Parce que pour écrire un roman sans illustration, il suffit d'avoir une machine à écrire. J'écrivais des nouvelles, de la fiction courte, de la fiction réaliste. Et en réalité, j'ai commencé un programme d'écriture à l'université, plus ou moins à cette époque. Et j'ai rencontré Cam, on était sur une fouille ensemble. On lisait tous les deux du fantasy, mais on lisait des auteurs différents. Donc ça a été une influence, bien entendu. Et puis c'est Cam qui m'a fait découvrir les jeux de rôle. Et on est un peu tombé là-dedans accidentellement, parce qu'on a voulu construire un monde dans lequel nos personnages pourraient évoluer. Ensemble, on a écrit pas mal de scénarios de films. On était vraiment très attirés par ça. Alors, on a fait un scénario pour un film d'horreur comique. On nous a dit que c'était pas possible. Un film avec du réalisme magique. On nous a dit que c'était quoi, que plus personne ne faisait ça. Des pièces historiques, historiques. Et on nous a dit que c'est complètement désuet. Bref, on écrivait toutes sortes de scripts. On disait que c'était pas possible, que ça se faisait plus. Et en réalité, Le Jardin de la Lune, c'est un des derniers scripts qu'on a co-écrit.
Alors, je crois avoir lu que vous avez dit que tout était en place avant que vous commenciez à écrire. Donc, vous aviez conçu dès le début quelque chose d'aussi vaste.
I did. I read it, yes.
Je l'ai lu.
Two times.
Deux fois.
In two different interviews.
Deux entretiens.
All was planned before you started writing.
Tout était planifié avant que vous ne commenciez à écrire.
Oh, was it planned before we started writing?
Yeah.
Yes.
Ah, of course.
Yes. Certainly, I think by the time I was starting to write Guardians of the Moon as a novel, Cam and I had already paired off, or rather separated out those sections of the story that we wanted to tell, so that he would handle some aspects and I would handle other aspects. And we were writing in parallel the first time around, but it took me 8 years to find a publisher for Gardens of the Moon, yeah. And I had to move to the UK to do it. And in the meantime, Cam was in universities, he was doing a PhD, and he was doing other things. But I know upon completion of my revision of Gardens of the Moon, when I found the publisher in the UK, I already knew full well where it was going, like the conclusion of things. And I think Cam did as well, certainly with the sale, because we gained that stuff. So we knew where it was all headed from the very beginning. So the challenge was actually deceiving our publishers into thinking we were just writing trilogies.
Oui, on avait tout planifié avant même de commencer à écrire. Quand j'ai commencé à écrire Gardens of the Moon, Les Jardins de la Lune, Cameron et moi, on s'est divisé le monde en sections, les sections qu'on voulait raconter. On s'est mis d'accord entre nous. Et on écrivait en parallèle. Mais bon, personnellement, j'ai mis 3 ans à obtenir un éditeur pour Jardins de la Lune, Gardens of the Moon. Et il a fallu que j'aille au Royaume-Uni. Quant à Cam, il était à la fac, il faisait des doctorats, etc. Mais quand on est arrivé à la dernière lecture avec mon éditeur de Jardin de la Lune, je connaissais déjà la conclusion, je savais où on va. Et Cam aussi. Je pense que c'est en effet parce que on a commencé, tout ça a commencé comme un jeu de rôle, donc on savait comment ça allait finir dès le début. Ce qui était vraiment compliqué, c'était de tromper notre éditeur et lui faire penser que ce ne serait que des trilogies.
Donc vous aviez, vous, cette ampleur inscrite dès le début? Ça, c'est une première question, et celle qui en découle, c'est est-ce que ce gigantisme fait pour vous partie du genre, fait partie de la fantasy?
I suppose so. I mean, epic fantasy is, to my mind, it's a continuation of the original tree of literature. So you're thinking of Gilgamesh, and you're thinking of the Iliad and the Vedic stories as sort of the foundation of basically all storytelling. And so other genres are branches off that main trunk. And so you can get mysteries, romances, science fiction, whatever, including contemporary fiction, which is a little twig at the end of a long branch with a little leaf on it. But it's the most important, apparently. But the trunk of the tree is the continuation of epic fantasy. And so in that sense, it has the oldest tradition of all forms of literature. And I think one needs to be conscious of that, not as a burden, but as a support system that it can sustain as much weight as you care to put on it. Because it's not just a thin twig or a branch. It has that deep, deep roots in human history.
Je suppose, oui, pour moi, la fantasy épique, c'est une sorte de... c'est un peu le point culminant de l'arbre qu'est la littérature. On a toutes les grandes œuvres du passé, l'Iliade, Gilgamesh, entre autres. Tout ça, c'est le fondement de l'art de l'histoire, de l'art de conter. Et chaque genre, en fait, que ce soit les polars, les romans à l'eau de rose, etc., ce sont des branches. On a aussi une branche, la fiction contemporaine, apparemment c'est la plus importante, mais pour moi c'est une toute petite brindille avec une feuille au bout. Non, pour moi, la fantasy épique, c'est en fait la suite du tronc. Et ça, elle se trouve dans la tradition la plus ancienne. Et il ne faut pas penser que cette tradition est une charge. Non, au contraire, c'est un soutien. C'est tellement solide, il y a des racines tellement profondes qu'elle peut soutenir énormément de poids. Ce n'est pas une petite brindille, quoi.
Non, il y a 10 tomes, en français en tout cas, c'est pas si dans l'édition originale, c'est la même chose. Et dans chacun, vous changez souvent de lieu, de personnage, presque de style. Comment vous avez négocié ces virages? Et est-ce que de tous ces tomes, il y en a un que vous préférez, dans lequel vous êtes plus investi ou qui vous révèle plus à vos yeux?
Right. I think if I had maintained the same style throughout a 10-volume, 3.25-million-word series, I would have probably lost my readers by about the third book.
Yeah.
So I needed...
Mais votre éditeur aurait eu une trilogie comme ça.
Yeah, a trilogy. You're right, yeah. I think I needed... also, I'm not a fan of cliffhanging novels. I don't know what the French term for that is, but... cliffhanger?
Ouais. C'est un peu le même. Hélas, j'ose dire.
Yeah?
C'est un peu le même, yeah.
So the French term is all too common then. Yeah, cliffhangers just too common in the series. Yeah, I'm just not a fan of those. So I wanted each novel to stand alone, so that, especially since they're long novels, if a reader is going to invest to that extent in the story, it did not seem fair to me that the payoff would not arrive until the next book or the book after that. So the payoff has to arrive within the novel. And so each novel became a kind of self-contained unit. And then it's simply a question of linking them. And voices will change, styles will change to a certain extent. But in terms of the... probably the one that's closest to my heart is the 8th one, which is the one that's just come out here, Toll the Hounds. It is the linchpin for understanding the entire series. But you won't know that until the end of the 10 books.
Ah, je pense que si j'avais gardé le même style pendant 10 tomes, j'aurais pas vu mes lecteurs dès le tome 3. Et vous disiez donc que ce serait peut-être bien, parce que ça voudrait dire que votre éditeur a eu la trilogie qu'il pensait avoir achetée. Mais bon, oui, peut-être. Voilà, moi ce que j'aime pas, c'est quand un roman se termine sur un cliffhanger, malheureusement un mot anglais, comme nous en avons parlé, parce que les cliffhangers, c'est bien trop commun. Je pense que, en fait, j'ai écrit mes romans pour que chacun puisse être lu indépendamment. Si un lecteur investit énormément de temps et d'énergie dans la lecture de mon histoire, je veux pas qu'il ne reçoive pas sa récompense avant le prochain roman. Donc, je veux qu'il se sente satisfait d'avoir lu juste un roman. Donc, chacun est indépendant. Dans chaque roman, la voix et le style sont un peu différents. Quant à mon favori, eh bien, je pense que c'est la 8e de la série actuelle qui vient d'être publiée en français d'ailleurs. C'est une sorte de clé de voûte qui permettra de tout comprendre, mais ça vous ne saurez pas pourquoi, avant d'avoir lu le 10e roman.
Votre univers touche plus à l'Antiquité qu'au Moyen-Âge. Est-ce que c'est une aspiration personnelle ou c'est aussi une volonté de lutter contre le cliché majeur du genre, qui est cette espèce de copie du Moyen-Âge qu'on retrouve dans une grande majorité de sagas de fantasy?
Yes, yes. It was a very conscious decision to write against kind of the cliched Eurocentric tradition within at least Western epic fantasy, North American, European, I suppose. Because as anthropologists, we're very conscious of the historical legacy of colonialism and how that idea of colonialism can actually colonate the imagination as well, colonize the imagination. We did not want to... If you carry a quasi-medieval European world into a fantasy setting, there's the risk of dragging some unwanted elements with it. And one of those unwanted elements, at least to our minds, was patriarchy. We wanted to create a universe that where it simply did not exist, and that led us to question: well, how can you actually put that in place? How could it have arisen organically in somewhere else? And that's where magic comes in, and that's why the fantasy elements are there. If you have magic that can that is accessible to anyone and is efficacious, you cannot have gender-based hierarchy of power. So matriarchies cannot exist in and of themselves. That was the premise we founded the world upon. And that kind of leveled everything out for us, and it made it much more open in terms of exploring characters regardless of their gender, like fully exploring them, as opposed to quasi-European, Eurocentric, medieval kind of thing. The roles that women can play are become more limited because you drag these things into the fantasy world. And we did not want to do that.
Oui, c'était bel et bien une décision consciente. On a écrit, mais c'était pour aller on a décidé d'aller à l'encontre du cliché du fantasy qui est tellement eurocentrique. En tant qu'anthropologue, en effet, on a conscience des cicatrices qu'a laissé le colonialisme, et on a également conscience de comment cette idée même du colonialisme peut coloniser nos imaginations. Si on avait décidé de faire dérouler l'action de notre monde dans un monde européen quasi médiéval, eh bien, il y aurait des éléments de ce système qui auraient infusé, qui se seraient infiltrés dans notre monde. Des éléments indésirables, comme par exemple le patriarcat. On voulait un monde justement qui n'existait pas. Et on s'est demandé comment tout mettre en place. Un monde donc où des éléments de magie et des éléments fantastiques sont disponibles pour tous et sont cela veut dire que tout le monde a du pouvoir, et donc le matriarcat, tous les autres arcas d'ailleurs ne peuvent pas exister. Ça nous a permis une plus grande ouverture. On a pu explorer nos personnages sans avoir à se poser la question du genre et de ce qui limite dans le genre, parce que quand on écrit quelque chose qui se déroule dans l'Europe médiévale, les rôles sont plus limités.
Bon, j'ai l'impression qu'on pourrait parler aussi longtemps de vos livres qu'on passe de temps à les lire, mais malheureusement on a des trains à prendre, et si jamais pour une fois la SNCF était à l'heure, ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc on va devoir conclure cette table ronde. J'aimerais bien que vous nous parliez de vos rapports avec l'édition française, de la première tentative de traduction du livre des martyrs, pourquoi ça n'a pas fonctionné, comment ça s'est récupéré avec Léa, et est-ce que vous avez collaboré avec vos traducteurs, et aujourd'hui, ben, votre joie, j'espère, de voir qu'on touche au bout et que le livre des martyrs sera publié en entier.
I'm delighted that Leah basically took on this enormous project. And apparently I have one fan to thank for it. I don't know if he's here or not, but he was here yesterday, who actually came to Jean-Philippe and said, you've got to do this.
Yeah.
The original efforts, I think, were kind of non-committal for those publishing houses. And I certainly did not engage in any dialogue with the translators. But that was very different with these publishers now. And I'm just immensely impressed with their rate of publication every 6-7 months, despite COVID and all the rest. It's very impressive. Beautiful looking books. As for why it didn't make it the first time, I don't know. I don't. I mean, these are mysteries to me. I sort of hear after the fact whether the publisher stayed with the series or not. It's a volatile market, and timing is everything.
Alors, bien entendu, je suis vraiment enchantée que Léa ait pris ce projet si important à bras de cœur et corps. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un fan à remercier pour ça. Il était là hier, mais apparemment, cette personne est allée voir les éditeurs et leur a dit qu'il faut absolument que vous publiez ces bouquins. L'effort précédent de publication de mon livre, je trouve qu'ils n'étaient pas très enthousiastes. Il n'y avait pas de dialogue avec les traducteurs. Non, pas du tout. Mais là, que ça a vraiment complètement changé. Je suis vraiment épatée par le rythme de publication. C'est presque un volume tous les 6 mois. Et ça, c'était en pleine pandémie. En plus, les livres sont tellement beaux que je suis enchantée. Les causes de l'échec de la première tentative d'édition de mes livres en France Je ne sais pas, ça restera un mystère pour moi. Mais je pense que c'est une question tout simplement de timing. Le timing, c'est vraiment ça. En fait, tout dépend de la demande. Et puis, bon, voilà.
Leia has been brilliant. I was invited here 4 years ago from National with Guardians of the Moon coming out, and this time back, this is the first time the co-creators of the Malazan world have been able to tour anywhere together, and so I'm really looking forward to the next month. This is it feels historic for us because we haven't been living in the same city for a long time, and it's just been great to sort of reconnect, and to do it here is fabulous. I love being here, so hopefully I can come back.
Léa a vraiment été top. Et puis bon, la dernière fois que j'étais ici, c'était il y a 4 ans pour la publication de Jardin de la Lune en français. Mais c'est la première fois que je suis en France avec mon co-créateur et qu'on va entamer un tour d'un mois. Je suis vraiment enchantée. C'est comme un moment historique pour nous en quelque sorte. Ça fait très longtemps qu'on n'habite plus dans la même ville, et voilà, ça va nous donner l'occasion de se reconnecter, de recréer le lien, quoi.
Steven Erickson, merci. Si vous n'avez rien à faire dans les 10 années à venir, n'hésitez pas à vous plonger dans les 11 000 pages du Livre des Martyrs qui vous prendront et ne vous lâcheront pas. Merci à vous et merci à la traduction qui a été par tranches copieuses et remarquablement fidèle. Merci beaucoup, bonne fin de journée.